Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous de la moto sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec notre trio de motards luttants. D'abord, pour commencer, notre grand Christophe, Christophe Tillman.
Oui, bonjour, luttant, Christophe. Hein, pas mutant.
Pas luttant, hein.
Ouais, voilà, luttant, hein.
Voilà. Ouais. Alors, j'ai pas dit. Alors, tu es grand parce que tu fais plus de 2 mètres.
Hein. Oui, bon, passons.
Voilà.
Voilà. Je suis en train de potasser les essais 2021 de Moto Magazine pour voir quelle moto pour les grands.
Très bien, bah voilà, c'est pour évident, ça que j'ai insisté sur ta hauteur de vision, de vue. Voilà. Ouais, voilà. Donc, on va parler du sommaire, hein, du Moto Magazine du mois d'avril.
Tout à fait, le numéro 375, 132 pages, nouveau look, des sujets sport. Hein, donc, tous ceux qui s'intéressent au MotoGP, bah, ils vont retrouver un peu les portraits, enfin, ils connaissent, mais justement, quelles sont les forces en présence. Et puis, bien sûr, des essais. Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie de prendre des thématiques. Bon, on va parler avec notre ami Jean-Yves là, des différents sujets qui préoccupent la FFMC et le monde motard, bien sûr.
En général.
Et puis aussi, j'ai prévu une rubrique sur les équipements. Vous vous souvenez, j'avais fait une rubrique utile ou futile ? Ben là, on est en plein dedans. Hein, avec les relais, les régulateurs de vitesse adaptatifs sur les motos.
Bon, on ne sait pas si vraiment c'est nécessaire ou pas. Hein,
voilà.
Si c'est du marketing.
On fera une petite chronique, on passera en revue comme ça quelques équipements. Et puis, bien sûr, l'anniversaire de Moto Guzzi. Hein. Ici, on aime bien Moto Guzzi.
Voilà,
hein,
les 100 ans, hein, on est en plein dedans. Là, hein. C'était, c'était le 15 mars. Hein. Les papiers ont été signés le 15 mars, il y a 100 ans.
Et puis, c'est aussi les 100 ans d'un modèle de moto dont je vous dévoilerai la surprise tout à l'heure.
Ah, très bien. Voilà, allez, la suite de ce sommaire avec Jean-Yves Ballois de la Fédération française des motards en colère. Jean-Yves, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et puis, effectivement, là, c'est un sujet crucial qui va nous retomber dessus, mais pour une fois, c'est pas le gouvernement français qui nous attaque, c'est le Parlement européen. Ah. Donc, je vais vous exposer les dessous de l'affaire.
Pas plus ? T'en dis pas plus ?
Ah bah, pour l'instant, j'en dis pas plus. Par contre, mon deuxième sujet, ce sera sur la manif du 10 avril, parce que, justement, pour une fois, il s'agit de pas d'attaquer le gouvernement français, mais plutôt le Parlement européen. Faut pas se priver.
On va jamais s'en sortir, oui. Jean-Yves. Alors, on doit se battre sur deux fronts différents. Ça va être difficile.
Justement,
hein.
les motards, à ce que je lis dans les commentaires de différentes revues ou autres, les motards n'ont toujours pas compris que pour le gouvernement français, un bon motard était un motard mort. Donc, ils veulent notre peau. Il faut se défendre absolument et donc il faut se grouper pour se défendre.
Oui, et puis tu vas m'aider, Jean-Yves, aussi à parler, j'ai oublié tout à l'heure de la limitation à 80 et du passage donc, de certains départements qui sont revenus à 90. Et donc ça fait l'objet d'une enquête.
Alors quand on lit le papier, il y a deux pages, trois pages, hein, c'est stupéfiant. Hein.
Oui,
en fait, il y a moins de morts maintenant que les routes sont revenues à 90 que quand c'était à 80.
Pas eu le sujet.
Ça va être un bon.
On en parle après l'Asie.
Un bon sujet fumant.
Pour une fois qu'il fait un peu de teasing comme on lui a appris, tu lui as coupé son effet.
Teasing, c'est ça. Ouais, j'ai lu ça aussi dans Motomag. Ouais. Puisque tu prends la parole, Daniel, bonjour.
Bonjour.
Mais qu'est-ce qui se passe donc au Custom Village, les gars, les backers, qui sommes-nous en 2021 Vous voyez pas un petit coup de mou là
Ça dépend en qui.
À cause du virus peut-être une dépression.
Non, mais tu.
Notre style de vie, nos rassemblements, est-ce que ça sert ou pas? La notion de respect. Mais je sais pas, c'est bizarre quand même.
Oui, tout à fait, mais tu sais que le monde de la moto, c'est une dure lutte. Donc, à partir de là, il est bon aussi de rappeler aux anciens et aux jeunes et aux futurs pratiquants quel est le mode de vie, quelle est l'essence même du biker en particulier et du motard en général. De toute manière, ce qui nous a animés, nous tous, puisqu'on fait partie d'une génération d'expérience, nous sommes... Attention, âgé mais pas vieux. Donc, on expliquera les fondamentaux, ce qui fait notre différence et surtout, ce qui nous est chevillé au corps, c'est notre notion de liberté. Et on n'acceptera jamais les lois liberticides et au fond, tous ces, comment dire, ces pantins administratifs, hauts fonctionnaires et gouvernants qui veulent nous brimer et supprimer notre mode de vie.
Très bien, merci Daniel. Ben écoute, je suis impatient de t'entendre.
Voilà. J'ai du stop.
Voilà. Très bien. Et à la programmation musicale, c'est Monsieur Laurent Rodier. Le rendez-vous de la moto sur Campus 106,6 avec pour commencer Christophe Tillemant pour ce sommaire du Moto Magazine du mois d'avril.
Voilà, alors un sujet dont on a abordé le sujet justement avec Jean-Yves concernant la limitation de vitesse à 80. Alors je rappelle un peu les conditions. 1er juillet 2018, mise en place donc des 80 km/h sur toutes les routes départementales.
Contre l'avis de Macron,
oui.
En plus. Pour une fois, il n'a pas fait son Jupiter.
Oui, voilà, tout à fait.
Ah, il n'était pas responsable alors ?
Non,
ah,
il a fait...
C'est... Ah, moi, je pensais que c'était 900
000. Responsable. Non, 900 000 km de départementales.
Vache.
Bon.
C'est ce corrompu d'Edouard Philippe.
Je sais pas si vous vous souvenez. On va pas refaire l'histoire, mais ça correspond à ce moment-là aussi avec une augmentation assez significative du prix des carburants.
Oui.
Et là,
ce qui a donné naissance à un mouvement.
Absolument. Le mouvement
des blousons noirs.
Des blousons noirs. Non, t'es pas dans
les gilets jaunes.
Dans l'actu, les gilets jaunes.
Ah, voilà. Moi, je pensais que c'était le ramasseur de poubelles.
Je sais pas.
Et puis, de toute façon, t'es ramasseur de poubelles si t'es en panne au bord de la route. Parce que si t'as pas ton gilet jaune, t'es embarqué.
Vous savez ce que ça a coûté, tout ça?
Plusieurs dizaines de millions.
Oui, c'est effarant. J'ai lu l'article, c'est effarant.
6 à 12 millions.
Incroyable. Attends. Pour changer les panneaux.
Attendez. Là, je crois qu'il faut être précis. À l'origine, je rappelle quand même.
Un scoop.
Non, ce n'est pas un scoop. C'est justement de rappeler la mémoire. Comment s'appelle notre ami Édouard Philippe à l'époque?
C'est ton ami, c'est pas le nôtre.
Non, c'est l'ami de la France, monsieur. Premier ministre, respectons les institutions, c'est important. Alors, il avait dit que ça coûterait au maximum 600 000 euros. Quelques jours après, il y a quelqu'un de la DRI ou DRIR, un truc comme ça, qui dit 6 millions. Et maintenant, quand on regarde, par exemple, les Hauts-de-France, on s'aperçoit que ça a coûté, les Hauts-de-France, 12 millions d'euros entre eux. Parce que là, il parlait de fabrication des panneaux, mais il a fallu les installer. Oui, il a fallu remettre des bornes partout, des poteaux et tout. Oui. Et maintenant, il faut les retirer.
On les enlève alors maintenant.
Et ça coûtera la même chose.
Et donc, ce sont aux départements. Aujourd'hui, l'État laisse effectivement le soin aux départements qui veulent revenir à la situation des 90 km/h de dépenser.
Enfin, il faut quand même souligner les bâtons dans les roues pour revenir aux 90.
Absolument.
Là, c'est absolument faramineux.
Alors, effectivement, il faut, je donne donc les règles, il faut une longueur de plus de 10 km, sans intersection, pas d'arrêt de transport en commun, pas de circulation d'espace agricole. Bon, ça fait déjà... Il y a combien aujourd'hui de kilomètres qui ont été repassés à 90?
Il y a un ou deux départements. Et...
Alors, il y en a quatre qui se trouvent toutes dans la région Auvergne. Ouais. Et il y a 3% des routes départementales qui seront repassées à 90 km/h. Donc, 32 400 km. Et donc, la cartographie de France qui nous est donnée, alors c'est pas très visuel, on n'est pas encore France Inter ici, on ne peut pas montrer ça à la caméra. Mais en gros, donc, comme tu le disais Jean-Yves, il y a 5 départements dans le centre de la France qui sont repassés complètement à 90. Et puis, il y en a, alors c'est un mitage un petit peu sur tout le territoire, il y en a qui n'ont pas changé du tout. Donc la Bretagne, en région PACA.
La Corse aussi, ils n'ont pas voulu se rester à 80. C'est ça, c'est pas dans le caractère breton et corse, de se laisser imposer des conneries par le pouvoir central.
Voilà, puis Languedoc-Roussillon. Bon, donc cette répartition, elle est... Alors, je vous gage de traverser la France et puis de vous y retrouver.
Ah oui, alors c'est impossible. c'est fini.
La mise à jour.
Parce qu'entre 50, 70, 80, 90,
110.
Là, et 110. Alors là.
Et alors, donc il y a eu le CEREMA, donc l'organisme chargé de faire l'évaluation et le bilan, donc qui a rendu son bilan ici en juillet 2020, rapporte donc les éléments. Ce qu'on observe, c'est au niveau des décès. Parce que je rappelle que quand ça avait été annoncé, il fallait sauver 400 vies par an.
Oui.
Bon. Ça fait des comptes un peu macabres, mais on parle de 349 vies sauvées.
Oui, et suite à une manipulation des chiffres, parce qu'ils comparent des choux et des carottes.
Oui, mais ils les mettent où les carottes?
Ils les mettent dans notre cul, évidemment.
Tout à fait. Mais par exemple, donc, je vous donne quelques résultats sur les départements qui sont repassés à 90 km/h. La Creuse, il y avait eu 7 décès en 2019, il y en a eu 4 en 2020.
Donc, en 2019, c'était 80 km/h.
Oui, voilà.
Donc c'est revenu à 90.
Absolument.
Et donc il y a eu moins de décès en 2020 qu'en 2019.
Voilà. Sauf qu'en Corrèze, c'est les mêmes chiffres, il y a eu 16 décès en 2019 et encore 16 en 2020. Dans le Cantal, on est passé de 10 décès en 2019 à 7 en 2020. Et puis, je vois la Haute-Marne qui est passée de 12 à 9. Voilà. Dont 3 sur la période, puisque là, c'est pareil, c'est pas tout le département qui a été remis à 90.
Donc, conclusion, l'accidentalité a plutôt baissé en revenant à 90.
Oui, alors, de toute façon, on en parlait hors antenne, on fait dire un peu aux chiffres ce qu'on veut.
On devrait passer à 100, donc, peut-être.
Donc,
il y aurait peut-être encore moins de morts.
C'est ce qu'avait fait le Danemark. Hein. Ils sont
si on passait à 100 km/h sur les routes.
Moi, je suis d'accord.
Je sais pas, c'est une étude à faire.
Et je ne sais pas si aujourd'hui, on est dans les régions et les départements sur une pente de réflexion pour changer. Je ne sais pas, on n'en parle plus du tout. J'ai pas
Non, il y a le Covid.
Il y a d'autres sujets.
L'essentiel, c'est d'avoir un paravent pour empêcher les gens de penser.
Donc voilà, un sujet que vous, un état des lieux donc, sur la fracture départementale telle qu'elle est indiquée. Chirac avait parlé de la fracture sociale. Ici, on parle de fracture départementale. Et effectivement, sur la route complexe. D'ailleurs, je ne sais pas comment les radars automatiques ont-ils été gérés à ce niveau-là. Est-ce qu'ils ont été gérés d'ailleurs?
Non. Ça, on ne sait pas. Voilà,
c'est de l'administration.
Bon, c'est à chaque fois, nous, on a fait attention à respecter la limitation. Ah, hein.
Maintenant, il y a les radars mobiles sur les voitures, voilà. Les radars embarqués.
Par contre, une réponse au niveau de tes radars, il faut quand même savoir que l'objectif des 1,2 milliard au niveau des radars automatiques a été explosé, puisqu'on est passé à 1,7 milliard déclarés pour l'exercice 2020.
Ah bon, ouais, ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est très bien.
On craignait pour les finances de la France, on est rassuré.
On est rassuré, Daniel.
C'est important. C'est important.
Alors, voilà. un autre sujet, et je termine la séquence là-dessus, concernant les événements. Tu parlais, Jean-Yves, du Covid. Évidemment, les événements moto sont impactés. Et donc, c'est quand même significatif dans ce numéro d'avril. Il y a une publicité pour le Grand Prix de France. Donc, oui. Qui est maintenu au Mans pour l'instant, le 14, 15 et le 16 mai. Donc ça nous change des parutions habituelles où on avait quand même tous les événements moto. Et puis j'attire votre attention, j'en avais déjà parlé, le Salon de Lyon que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques années, qui évidemment cette année ne pourra pas se tenir en live, mais pour lequel donc l'organisation a déployé des trésors d'imagination. Et donc sur son site web, le salon sera virtuel. Et donc, émission à thème, interactif, participation du public, suivi en live, Internet et les réseaux sociaux. Donc, vous pourrez...
C'est quand même moins bien à ce baraque, regarder dans le salon, sur la télé, sur un écran. Quoi.
Mais
c'est quand même mieux quand on est en vrai. Hein, dans la.
C'est comme les relations
C'est ça, humaines.
Hein,
oui.
Alors, il y a des thématiques, effectivement. Alors, je vous donne les néo-rétro et les roadsters, ça sera sous la rubrique Joe Bartim. La custom culture, donc l'émission custom culture pour le vintage. Alors, je sais pas, ça m'a un peu fait sourire parce que ça classe le vintage dans la custom culture.
Tout à fait.
Mais pas que.
Pas que.
Ah, voilà, absolument. Les ateliers mécaniques, donc pour les amateurs de technique, et les fous de vitesse. Donc, il y aura le duplex réalisé durant les 24 heures du Mans Moto, le Grand Prix de Portimao au Portugal. Enfin, tout un tas d'événements qui seront relayés par l'organisation du salon pour vous faire passer donc, 2 jours. Alors, les dates, 3, qu'est-ce que je dis ? C'est 4 jours. Du 15 au 18 avril, Salon de Lyon virtuel.
Sommaire du Moto Magazine d'avril avec Christophe. Christophe, on veut parler de roster à moins de 8000 balles.
Oui, alors c'est les motos, effectivement, un comparatif roster. Donc c'est la première moto pour beaucoup de motards. Hein. C'est un peu le ticket d'entrée pour commencer dans la moto. D'ailleurs, c'est des motos qu'on retrouve dans les moto-écoles. Hein. Parce que la Kawa 650Z, c'est celle sur laquelle j'ai appris. Alors évidemment, c'est le modèle de l'époque.
C'est pas celle-là. Hein.
Avec le grand âge. Non, c'est pas celle-là.
C'est pas celle-là. C'était juste après-guerre.
Exactement. Hein. Et donc, un comparatif. Alors c'est toujours un dossier. Il faut savoir que chaque mois, Moto Magazine présente une quinzaine de modèles. Hein. Donc, alors là, ils approfondissent en fait le sujet sur ces rosters de milieu de gamme. Des motos donc, qui se distinguent. Alors, on distingue, alors je vais les citer, la Yamaha MT-07, donc la plus grosse vente annuelle de motos en France. La Honda CB650. La Triumph Trident 660, on en parlera tout à l'heure sur le teasing, hein, puisque c'est un sujet qu'on abordera.
Oui, mais est-ce une Triumph ? Elle n'a qu'un seul phare.
Ah, voilà. Et la Kawa Z650 SE. Hein, donc, vous avez un comparatif d'une vingtaine de pages, hein, pour vous faire votre idée. Alors, est-ce que c'est la partie cycle, la puissance et le caractère moteur de leur Honda qui la distingue ? La nouveauté donc, des Yamaha MT-07 pour son côté fun, son confort amélioré, la nouveauté, le design et la techno avec la Triumph, et puis la Kawa qui reste un peu en retrait, qui passe les années, qui s'améliore, mais effectivement qui a à faire face à une concurrence assez rude. Donc vous découvrirez ce comparatif sur les roadsters de milieu de gamme. Alors toujours dans les roadsters, l'Aprilia Tuono 660, hein, donc Aprilia, bon, une marque quand même assez confidentielle, mais là on est sur une Sport GT, donc un roadster caréné. Vous la trouverez juste après le dossier de comparaison, donc vraiment une sportive que vous pourrez découvrir, bon, qui n'est pas donnée, mais à rencontrer. La MT-09 de Yamaha, donc un moteur. Qui la rend particulièrement plaisante. Le couple, je me souviens, Jean-Yves, on avait parlé du couple, ils ont descendu de 1500 tours le couple. Hein, donc, on est. Alors, attends, je suis dans mes pages là.
T'as pas préparé ton dossier.
Ah, le problème, c'est qu'il y a 15 modèles. Hein,
c'est pas une raison. T'es correspondant Motomax.
Pourquoi les rosters à moins de 8000 balles.
Voilà. Alors, attends, ici, on n'est pas à moins de 8000 balles. Hein, on est quand même pas loin de 10 000.
Ah oui,
C'est pas la même chose, hein, pour un couple maxi. Donc. 93 Nm à 7000 tours, et puis la puissance à 109 chevaux. Alors, la Ducati Super Sport 950, donc on est toujours dans les sportives GT. J'ai noté aussi, page 80, la V37 Moto Guzzi. Alors, la V7, bon, évidemment, c'est emblématique, on en parlera tout à l'heure pour les 100 ans de Moto Guzzi, mais elle se voit aujourd'hui attribuer le moteur de la V85, hein, la Miche ?
Oui, mais dégonflé.
Voilà.
Un peu dégonflé.
Quelques
chevaux, oui.
Oui, oui.
Et puis, vous passez en revue également toute la gamme Triumph, donc à la page 42, avec évidemment, on en avait parlé le mois dernier, la mise à jour donc, des normes, Euro 5, donc toute la gamme passe à normes Euro 5, donc évidemment la série Bonneville, la Street Twin, et la Speed Master, avec donc des modèles, il y a même un modèle qui sort en 1000 exemplaires, hein, la Gold Line. Donc qui sera qui sort ici en ce moment.
Bah, les nouvelles roquettes aussi, ils ont fait une série de 1000 exemplaires.
Moins cher ?
Non, plus cher évidemment, mais ça devient une constante chez les fabricants, c'est de faire des séries limitées.
Ouais, bah c'est ce qu'on appelle du cumul de marge, tout simplement.
C'est strictement inutile pour le motard de base.
Oui, mais par contre, pour le portefeuille et la rentabilité, c'est génial.
Alors, ce qu'on observe, c'est une caractéristique d'ailleurs de toutes les marques, c'est vraiment de changer sur de menus détails, mais qui font évoluer les machines et qui les rendent toujours plus attrayantes par rapport aux anciens modèles. Alors, c'est le cas à part, c'est un peu la KTM, pardon. Ils sortent la 1290 Super Adventure S, donc un gros trail. On est toujours à courir après la référence BMW GS. Et donc, avec ce modèle, aujourd'hui neuf, il y a juste après un dossier de présentation de la KTM 950 Adventure de 2005, donc qui a été un peu la précurseur, qui avait été lancée en rallye et qui est sortie 2 ans après. Et cette machine, donc aujourd'hui, cote en collection, donc une machine de 18 ans, collector. Donc vous retrouverez ces motos KTM dans le magazine, avec donc ce moteur pour la 1290, le LC8, issu de la Super Duke R.
C'est un vieux moteur déjà, ça fait un certain bout de temps qu'il est sorti.
Oui, effectivement, mais associé à un châssis particulièrement efficace, des suspensions
top niveau.
Alors suivant le modèle, effectivement, vous avez la série S et la série R, vous avez évidemment des changements de diamètre de roue. Sur la R, vous passez en 21 pouces, des suspensions réglables manuellement ou piloter suivant les modèles que vous retenez. Et puis j'ai gardé pour la fin la cerise sur le gâteau, la Brough supérieure.
C'est pas le même prix.
Non, c'est pas le même prix.
Quoique, là on n'est plus à 8000 balles, Christophe.
On est à 66 000 euros.
Ah bah c'est vraiment pareil.
Et puis il y a un délai d'attente qui doit...
Voilà. Énorme.
Voilà. Alors,
mais ça commence moins cher.
Il y en a...
À 30 000 euros si je ne m'abuse.
Il y en a certainement. Alors une marque française qui se targue de tout faire en
France. Il a racheté le nom, hein ?
Oui, absolument. Hein. Et donc, qui sort en référence à Laurence d'Arabie, la Brough supérieure Laurence. Ensuite, un modèle qui sera à 100... C'est en série limitée, c'est exactement ce que tu disais, Jean-Yves, à 188 exemplaires pour célébrer donc la date de naissance de Laurence d'Arabie, 1880.
C'est voilà, pour le motard historien, c'est-à-dire une très 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 mince frange de motards.
Ouais, puis à cet âge-là, ils ne sont plus beaucoup, donc on a moins de...
En plus, oui.
Alors, je ne parle pas maintenant d'Indian, parce que j'en parlerai juste après, avec les 100 ans de Moto Guzzi et d'un modèle d'Indian.
Alors, Moto Guzzi pour cette année, et puis Indian, la chief pour l'année prochaine.
Chief, ça fait un peu...
Chef en français.
On est en France, mon pote, on dit chef.
Et ouais.
Fais pas de tiage.
Allez, un petit morceau de musique et on se retrouve juste après.
Take it easy.
toujours sur le 106,6 de Radio Campus Lille, le spécial sommaire du mois d'avril du Motomag, bien sûr, avec Christophe. On parle des 100 ans de Moto Guzzi.
Voilà, alors en arrivant pour enregistrer l'émission, là justement, j'ai vu une V85 toute neuve.
Oui, c'est vrai, moi aussi j'en ai vu.
Dans la rue.
Ouais, c'est bizarre.
Il y a des gens qui ont les moyens.
Rouge et blanc. Rouge, je sais pas quoi, là.
Rouge.
C'est pas rouge.
Rosso.
Alors, je sais pas.
C'est
Rosso,
voilà,
c'est
Rosso. Exactement.
Comme les Ferrari.
Et alors, j'ai vu que sur le phare, il y avait un sigle,
oui.
Un aigle stylisé.
Oui, voilà, un peu comme les Triomphes.
Savez-vous pourquoi?
Oui, non,
savez-vous
non,
pourquoi,
pas pourquoi.
Un aigle.
Non, c'est pas pourquoi.
Parce qu'il y a 100 ans.
Dis-nous.
Il y a trois bonhommes là, oui. qui décident de créer Moto Guzzi. Et donc, ils fondent le 15 mars de 1921 Moto Guzzi.
Mais ça ne nous dit pas pourquoi il y a un aigle.
Un aigle, oui.
Et l'aigle. C'est parce que ces trois bonhommes, c'était des aviateurs.
Ah, voilà.
Voilà. Alors, sauf qu'entre-temps, il y a la guerre qui passe par là. Et malheureusement, celui qui devait être associé à la création, il était décédé en 1918. Donc, ces deux collègues se présentent devant le notaire à Gênes pour déposer les statuts de Moto Guzzi. Et Moto Guzzi, donc, s'installe. Et Moto Guzzi est toujours... En Italie, à Mandello, la plus vieille marque de moto au monde qui produit ces motos.
Encore
sur son
site d'origine. L'usine d'origine.
La ville vit au battement de l'usine Moto Guzzi. Alors, elle en a eu des affres, cette marque, parce que, Jean-Yves, il y a des Moto Guzzi d'ailleurs, j'ai vu que toi aussi.
C'est l'année de Moto Guzzi, c'est normal qu'il n'ait que des Moto Guzzi. Hein, donc.
Voilà. Alors,
au moins, c'est pour montrer que la Moto Guzzi roule, même l'hiver.
Alors justement, c'est le V-twin longitudinal, refroidi par air, sonorité unique, la gamme V7, j'en ai parlé tout à l'heure.
Le couple de renversement, c'est un sel quand même dans la conduite.
Ça s'est amélioré quand même.
C'est dommage.
Hein,
ouais, c'est hélas.
Le 850 est un peu plus... On sent un peu moins.
Le 650, t'accélères, la bécane se couche.
Oui, voilà, se couche.
C'est pratique.
Et ils ont tout fait, des monocylindres, entre-temps, des bicylindres, des 4 cylindres, même un 8 cylindres, un V8, pardon, de
V8.
Compétition.
Oui.
Voilà, ils se sont distingués. Et comme tu le disais, des gros kilométrages. La tienne, elle a 35 ans,
70 000.
Tu roules pas beaucoup.
Non, mais c'est parce qu'il en a une.
Mais il avance. Il avance. Il avance.
Ah oui, il a une petite annonce.
Non, il la donne.
Il la donne.
Il avance. Il ne donne pas, quand même.
Oh, attends. Pour les 100 ans, il pourrait.
C'est vrai.
Pour le musée Guzzi, oui, à la rigueur. Puisque je rappelle que c'est NTX, il n'y en a eu que moins de 200 en France.
Ah, c'est une version...
T'es peut-être riche sans le voir.
Et donc, sur la mécanique, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la V7 Sport, en 71, était la moto de grande série la plus rapide du marché. Donc voilà.
La California Guzzi, s'appelait comme ça parce que, justement, les flics de Californie l'avaient utilisée comme moto de patrouille.
Ils avaient obtenu le marché avec la police californienne. Et donc, 1971...
Donc quoi, ça tient à rien, hein.
Surtout à rien, oui.
1971, c'est l'année de production des Moto Guzzi.
Oui,
46 000 machines produites. Oui, et aujourd'hui, ils en produisent...
À moins de 10 000.
10 000, oui, 10 000. 10 000. Mais bon, depuis, ils ont eu des titres, évidemment, sur le Tourist Trophy, qu'ils ont gagné 11 fois. 9 titres consécutifs en Grand Prix dans les années 50. Donc, une marque, évidemment, très distinguée. Et une fidélité aussi de ses clients.
Oui, et là, les amateurs de Guzzi sont
vaccinés.
Franchement, sont très fidèles.
Alors,
contrairement aux amateurs d'Harley ou de Didier.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais tu as raison.
Bon, voilà. Il faut rappeler qu'il y a une grande fête prévue en septembre.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc il y a un rendez-vous qui est donné début septembre. Alors les dates, la biche.
4, 5, 6. Excuse-moi, j'ai.
4, 5, 6.
Oui, voilà, Daniel, 4, 5, 6.
Parce que vous
y allez. Oui, voilà, on ne peut pas aller à la.
On ne peut pas venir à l'entrepôt.
À l'entrepôt. Une belle rencontre aussi.
Oui, tout à fait.
Il faut rappeler aussi.
Donc combien seront-ils?
Des milliers, voire des millions d'ailleurs.
Ouais, parce que
à Mondello.
Franchir les Alpes.
Franchir les Alpes,
À dos
d'éléphants comme
Hannibal.
Il y a des marques comme ça qui symbolisent le routard motard. Effectivement, Guzzi, c'est pas le mec qui fait du café rasseur et qui va chercher son pain le dimanche et qui roule que à cette occasion-là. Guzzi, c'est le mec qui fait de l'hivernal, c'est le mec qui roule beaucoup.
Voilà. Voilà. C'est pas des chouchottes. Donc, hein.
Non,
voilà.
Mais ils ont une grosse boîte à outils.
Bon, et si on va à l'usine là-bas, si vous allez en septembre, surtout vous allez voir cette soufflerie-là. Alors, ça c'est impressionnant. Hein.
Oui, alors effectivement, dans la cour de l'usine, il y a la soufflerie qui a évidemment toujours. Alors, c'est une soufflerie à l'ancienne, mais elle souffle. C'est scandaleux.
Ça, c'est bien. Bien. C'est bien, Christophe.
Ça, c'est non, important c'est, de ça, savoir.
C'est vraiment, mais c'est de la formation.
Arrêtez. C'est vachement important parce que justement, les records de la
Jean-Yves,
vieillite.
Merci Jean-Yves, je suis là pour ça.
Le carénage de la Norge a été étudié avec cette soufflerie.
C'est extrêmement important. La V8 a pu réussir des records de vitesse parce que justement, avec une puissance qui est maintenant ridicule, lors d'une cinquantaine de chevaux, réussir à dépasser les 220.
Oui, mais ils avaient le vent dans le dos.
Mais non.
Non, ils avaient bien mis la moto bien en face de l'hélice. C'est pas...
et je vous invite à écouter donc, l'émission de Moto Magazine qui est sortie lundi dernier, justement, sur cet événement, où Axel, donc, le chef des essais, nous parle de sa Daytona RS. Mm-hmm. Hein. T'as vu la miche, j'ai envoyé le message l'autre jour. Et il a fait 40 km. Elle est retournée chez Moto Guzzi. Ils ont dû refaire le moteur à 40 km.
Bon, ça c'est pas bon.
Ça arrive.
Chez Moto Guzzi, ça.
Pour l'image de marque.
Bon, peut-être chez les autres.
Bon. Après, il y a plus d'ennuis aussi.
Pardon ?
Après, il n'y a plus d'ennui.
Non, mais il faut savoir
dire.
Quand c'est
touché.
Bien, on le dit.
Bien qu'on touche du bois. Hein.
Oui.
Quand c'est bien, on le dit aussi. Hein.
Et quand c'est mal, qu'est-ce qu'on se marre.
Et alors, 100 ans, ce n'est pas seulement le privilège de Moto Guzzi. Chez Indian, il y a un modèle qui fêtera l'année prochaine ses 100 ans. C'est la Chief. Et donc, la Chief qui est présentée avec donc, ces nouveaux modèles. La Dark Horse, merci. Voilà. Et donc il y a un parallèle sur la création du design du cadre de la Chief et c'est intéressant. Ce sont les croquis donc qui vous sont présentés là, donc réalisés par Rick Christophe et le designer maison qui avait aussi contribué donc à la création de la Scout et de la FTR 1200. Et donc, on voit vraiment le travail qui lui a été demandé, c'est à partir du moteur de trouver un cadre qui présente et embellisse la présentation donc, du moteur. Donc, ça donne la production de la Chief, de sa déclinaison en Chief Captain. Donc, des modèles que vous découvrirez en page 40 avec le Thunderstruck 1890. De Indian Motorcycle.
On va demander à Dan, parce que c'est lui, notre expert,
qui parle couramment l'anglais.
Anglais.
Non, mais on est d'accord. Alors, en réalité, voilà, pour te donner un petit coup de main, il y a donc 5 modèles qui vont sortir. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est vrai que le moteur est mis en valeur.
Spécialiste.
Honnêtement. Ça, c'est une très très bonne chose. Ils ont abaissé surtout le poids, ce qui est une deuxième bonne chose, un petit peu à la star de ce qu'a fait Harley avec son Sport Glide. Donc, ce sont de très très belles motos qui reprennent. D'ailleurs, je vous renvoie à cette très belle illustration du calendar. Hein, la moto mythique de chez Indian, la Chief. Oui. Donc, c'est vraiment une très belle moto. Dépouillé, à mon avis, il y a quelques erreurs de relation entre le réservoir, des choses comme ça. Ils ont diminué la consommation. Bon, après, le problème de soupape aussi, il y a un petit souci.
La largeur de moteur. Voilà.
Mais le gros avantage, c'est qu'ils ont complètement compris, parce que c'est des bons marketmen, les gens qui sont à la tête d'Indian, c'est qu'ils vont offrir des motos entre 18 et 22 000 euros. Ce qui, encore une fois, ce qui était l'apanage, je dirais, de Harley avec ses Sport Glide, enfin ses Softail. Et c'est vraiment une très, très belle machine valorisante. Et ça met bien en valeur ce moteur. Bon, maintenant, il faudra voir ce que ça va donner. Mais c'est un très, très bon
moteur. Ce qui est marqué sur Motomag, hein, les points forts, une gueule épatante.
Tout à fait.
Le moteur, les équipements, apparemment, et ça leur a plu.
Des déclinaisons.
Point faible, le poids, là, à mon avis, ça doit peser sur
Je me permettre une remarque.
300 kilos.
Si je me permettre une remarque.
Oui.
Quand on regarde Pêche 41, le compteur de vitesse, on se dit, ah bah c'est un compteur d'eau que j'ai au fond de ma cave.
Oh, mais monsieur, quelle mauvaise foi.
mauvaise foi. Toi.
Non, non, mais toi alors.
Ce qui n'est pas normal.
Ouais, mais il n'y a que toi qui le vois.
Non, mais vraiment, là,
c'est un compteur digital.
Comparer le compteur de l'Indian à un compteur d'eau.
Bah écoute, avec les trois petites.
Faut oser, hein.
Oui. Ceci dit, moi je trouve que la déclinaison routière de l'Indian Chief, donc la Super Chief Limited, elle est sympa avec ses sacoches.
On est d'accord. Pour moi, c'est le modèle le plus réussi qui va matcher complètement le Softail Heritage. Ou parce que c'est vraiment bien positionné en prix, puis ça de la gueule.
Et Daniel, qu'est-ce qui va devenir à Harley-Davidson? Qu'est-ce que ça va devenir?
Ah ben écoute, on en parlera tout à l'heure.
Tout à l'heure, là.
Ouais. Dan, tu viens avec celle-là la prochaine fois.
Oui, on a encore 6 mois, c'est l'anniversaire.
Quand même, t'es un bon client.
C'est l'année prochaine.
Oui, oui, mais alors honnêtement,
on m'a dit qu'on achetait chacun la moto de l'anniversaire des 100 ans.
Alors moi, je fais
l'effort. Maintenant, l'année prochaine, il y en a un de nous quatre qui va faire un effort.
J'étais titillé par BMW.
Oui.
Pour une R18.
Tu vas chez une Renault alors.
Hein,
tu vas chez une Renault.
Bah oui. Non mais tu sais, arrives à un certain âge.
Suite au prochain épisode, on en reparlera.
Allez, on passe un morceau de musique et on se retrouve juste après.
Summertime blue. Wow, there ain't no kill.
Voilà, Christophe, on termine ce sommaire du Motomag d'avril avec cette rubrique que finalement nous on a inventée. Hein. Ça vient de chez nous, hein, du magazine de la moto.
Oui.
Hein, utile ou futile.
Utile ou futile. Alors,
ça sert ou ça sert où? C'est tout simplement pour.
Il y a quelques années, j'ai
faire jeune, moderne. Ouais, enlève ton masque. Oui, parce que je vois que tu t'étouffes quand tu respires. Je te vois que ça respire dans ta bouche.
Je ne voudrais
pas que tu meurs d'un étouffement.
J'ai cru que j'avais mis le casque, mais j'avais mis le masque. Donc,
oui, t'es complètement.
Bah,
Non, mais le casque, c'est sur les oreilles.
Oui, c'est le masque sur les.
Oui, non, j'avais pas le masque au-dessus de la tête. Hein, quand même.
Et le casque, c'est sur la tête.
Bon, alors, effectivement,
Utile
ou futile? Parce qu'il y a quelques années, cette rubrique qu'on avait déjà initiée, j'étais venu vous la présenter avec un casque airbag. Ça a fait un flop complet. Hein. Il est collector, je l'ai toujours. Je viendrai peut-être avec un jour sur la tête. Mais
non, mais pas.
J'en ai un autre.
Hein, bon.
Mais pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Eh bien, parce que c'est l'édito de Pierre Orluc, très cher équipement. Parce que Pierre aborde un sujet intéressant concernant, on le voit hein, dans les modèles qu'on présente aujourd'hui, toute la sécurité apportée par les assistances électroniques, les feux adaptatifs, les suspensions pilotées, les GPS intégrés. Et maintenant, on voit apparaître des radars couplés aux régulateurs de vitesse, des radars adaptatifs. Hein, donc c'est nouveau de cette année. Bon, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça, clairement?
Oui.
La moto, est-ce que c'est pas deux roues, un moteur, un accastillage limité et puis roule ma...
C'est ce qu'on se disait avant, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Hein,
le motard n'a pas besoin de tout ça, mais le concessionnaire, oui, parce que tout ça, ça tombe en panne.
Non,
et donc ça le fait.
Voilà. Alors justement, c'est le sujet que développe Pierre dans son édito, parce que cette électronique a embarqué, eh bien, la mutuelle des motards alerte. Savez-vous que les GS, les BMW GS, elles se font voler leur tableau de bord. C'est en fait une tablette. Mmh. Et bah, ça coûte plus de 1000 euros à remplacer. Donc ça a une valeur marchande.
Et c'est l'assurance qui paye.
Et c'est l'assurance qui paye. Donc la mutuelle alerte.
Ce serait des petits compteurs tout simples.
Électronique embarquée.
D'abord, ils ne se feraient pas voler.
Bah oui. Instrument
digital. Ce serait beaucoup moins cher.
Compteur d'eau.
Oui. Le compteur d'eau, par exemple.
GPS, feu à LED, suspension pilotée, contrôle de traction. Enfin, tous ces équipements-là n'existaient pas il y a 10 ans. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous payez dans votre prime d'assurance? Vous payez malheureusement la sinistralité de tous ces équipements qui, en cas de choc frontal, par exemple, hein, c'est ce qui est décrit dans l'édito, multiplie jusqu'à 5 fois plus cher qu'il y a 10 ans la réparation de la disque.
Ce qui veut dire que ça fait monter les primes d'assurance.
Ah, bien sûr.
Voilà. Oui, justement, on peut en parler de ça aussi, parce que la mutuelle des motards a augmenté ses tarifs relativement fortement, alors qu'il y a eu beaucoup moins d'accidents. Mais le problème, c'est que le prix unitaire des sinistres, il a augmenté d'une façon faramineuse.
Voilà. Alors, tu fais une parenthèse, parce qu'effectivement, sur cette question, moi, j'avais interpellé la mutuelle des motards. L'explication qui m'a été donnée, c'est qu'ils ont eu une très grosse indemnisation d'une passagère en septembre, préjudice corporel, qu'il a fallu mutualiser sur l'ensemble des sociétaires. C'est pas la première fois que ça arrive. Effectivement, ça fait 10 ans que je suis à la mutuelle des motards et c'est effectivement pas la première fois que ça arrive.
Et le problème de la mutuelle des motards, c'est qu'il n'a pas un volant d'assurance bagnole pour alimenter et amortir les coûts.
Alors, autre événement, autre rédaction de Pierre Orluc, donc le directeur de la rédaction. Alors, je vous parlais de l'édito en tout début de magazine et en toute fin de magazine, vous avez Quartier Libre. Et donc là, on parle de teasing. Alors, ça tombe bien, avec Dan à notre côté, on va avoir une explication de ce que c'est le teasing, mais vous en avez eu une illustration.
Je ne sais pas ce que c'était, donc j'ai lu
Tu ne savais pas ce que c'était?
Non, j'ai lu le...
Mais rappelle-toi.
J'ai lu la fin. Hein,
tu ne fréquentes pas les sites porno,
c'est pas 130.
Alors, ça se voit
voilà,
tout de suite.
Voilà. En fait, c'est un peu comme un chien, si tu veux. Et ce que j'ai retenu, c'est un peu comme un chien. Si on lui donne à manger tous les jours, à la même heure, et quand le chien te voit, il sait que normalement, il remue la queue, il devrait manger. Et si tu viens pas avec
c'est Pavlov,
avec de la bouffe,
Non, c'est pas ça.
Non, non, alors, pas du tout.
Bon, l'expérience de Pavlov, en deux mots, c'est au son de la cloche, on donne à manger
au
chien.
Oui, au son de la cloche.
Au son de la cloche.
Oui, au son de la cloche.
Et puis, si tu sonnes la cloche et tu lui donnes pas à manger, et ben le chien, il va quand même saliver, il va quand même baver.
C'est ce que je viens de dire.
Oui, non, mais c'est un stimuli.
C'est un stimuli,
qu'il voit la miche ou qu'il entend sonner la cloche.
Mais quelle est la différence entre aller acheter, stimuler quelqu'un pour aller acheter une moto et puis un chien qu'on va sonner une cloche.
Et ben c'est de créer l'envie.
Ah, créer l'envie, voilà.
Le conditionnement.
Et comment on conditionne et comment on crée l'envie?
Alors justement, comme Christophe m'a gentiment tendu la perche, enfin c'est une image.
La perche,
l'expert.
Oui, mais non, tout à fait. En commerce, en cours de commerce, c'est ce que j'expliquais à mes étudiants, c'est ce qu'on appelle le marketing de frustration. Donc, on a quelque part transféré, rappelez-vous à l'époque, la loi Pareto, etc., etc., et on a transféré le principe de stimuli, comme le réflexe de Pavlov, en instillant dans l'esprit des gens un certain nombre de réflexes conditionnés, et à partir du moment où on dit aux gens « vous ne pouvez plus l'acheter », c'est là que tu crées le désir. C'est ce qu'on appelle le marketing de frustration. Comment se fait-il que je ne puisse pas acheter quelque chose qu'on me propose?
C'est pour ça que la Roquette 3, on l'a fait en modèle limité, c'est ça?
Voilà. Mais,
donc on se dépêche d'aller acheter parce que
il
y en aura plus, c'est ça?
Mais ça n'a rien à voir avec le teasing quand même.
Voilà. Ah, c'est pas le teasing.
Ah non, pas du tout.
Le teasing, le bon exemple, c'est la dernière Trident 660 de Triumph. Elle a été donc lancée sous la forme d'une maquette blanche, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est apparue, c'était...
qui n'était pas sexy du tout.
Oui, mais bon, ils l'ont fait donc pendant 3 mois, de août à octobre. Voilà. Et puis après, elle s'est affublée des logos de Triumph. Donc, c'est une Triumph.
Ah, c'est une Triumph,
c'était une moto.
Elle n'est pas belle, après ça devient une Triumph.
Voilà,
elle devient belle.
Elle vient de passer, là.
Non.
Voilà. Et puis, après, il y a la découverte. Et donc, on veut créer, c'est exactement ce que Dan vient de décrire, l'attente, la découverte.
Il faut faire attendre, il faut faire.
On fait saliver.
Monter la sauce, c'est ça. Hein.
C'est voilà. Exactement
dans la fête. Cette progression, c'est toujours pour déclencher l'acte d'achat.
Oui, l'acte d'achat.
Et donc, là, c'est tout à fait ce que tu disais, Jean-Yves.
Ça n'a rien à voir avec le chien, là. C'est simplement qu'il faut débourser.
Là, tu sors les bifetons.
Un autre exemple de teasing, c'est la femme qui commence à se déshabiller et qui apparaît d'abord en sous-vêtements.
Ah. Alors, donc, elle se rhabille.
Elle se rhabille. J'ai rien compris, là.
Mais non, justement.
Il va falloir que tu nous fasses une vidéo parce que là, on comprend pas.
Voilà. On parle vite fait du gros dossier airbag parce que j'ai vu là que. Parce que moi, je le sens arriver, l'airbag, que ça va nous rendre. On va le rendre obligatoire. Moi, je le vois arriver.
À 700 boules.
700 boules.
Alors, pas seulement l'airbag, la veste, mais le pantalon.
Oui. Alors, j'ai vu qu'il y a maintenant le pantalon airbag.
Il faut
ça. La vache. Quand ça gonfle, ça gonfle.
Spécial cassoulet.
Il y a une photo. C'est quelque chose.
Rappelons-nous. D'où vient l'airbag. Au départ, c'est un gilet qui est accroché à la moto, c'est une cartouche, c'est un temps de réponse qui peut être effectivement différent d'un modèle à l'autre. Et là, c'est une évolution. Là, on vous présente 4 modèles qui sont autonomes. Alors, il faut rappeler que sur le Paris-Dakar aujourd'hui, les gilets airbag sont obligatoires. Et donc, il y a eu des modèles spécifiques qui ont été mis au point avec obligation, par exemple, pour les pilotes d'emmener une cartouche pour pouvoir se dépanner. C'est-à-dire que s'ils font une chute, il faut qu'ils puissent repartir.
Mais ça arrive souvent aussi de chuter.
Oui,
parce qu'il faut d'abord attendre que ça se dégonfle et remplacer la cartouche.
Absolument. Alors, et donc, là, vous avez pour le motard. Tout le monde, monsieur tout le monde, ces gilets qui sont présentés. Alors, avec des formules différentes. Tu parlais effectivement de prix de 700 euros. Je sais qu'il y a des compagnies d'assurance, la Massif et la Mutuelle des Motards, d'ailleurs, y participent. Il y en a qui sont en location avec le gilet. Tu parlais aussi du pantalon, parce qu'il y a une entreprise française.
Dijon.
Innovante, voilà. Qui sort avec un financement participatif 500 exemplaires, là, qui vont être livrés ici au mois d'avril, et puis ils espèrent en produire encore 3000 pour l'été. Donc, c'est des nouveautés. Alors, il y a un témoignage d'ailleurs de François Barrois, hein, donc un essayeur de Moto Magazine, qui roule aujourd'hui, alors pas avec le pantalon, peut-être, il ne le dit pas, hein, mais qui a adopté donc, l'airbag après bon, les chutes qu'il a pu faire.
Alors ça va devenir infernal, hein, parce que si tu vas faire une petite course, tu prends ta moto, tu mets ton gilet airbag, tu mets ton pantalon airbag.
Tes bottes.
Tu mets du savon.
Oui, alors.
Il va te falloir deux plombes pour pouvoir t'équiper.
Vous découvrirez dans l'article, ces airbags peuvent être, selon leur modèle, portés en dessous du blouson, au-dessus du blouson, avec dorsale ou sans dorsale. Enfin bon, donc là, c'est vrai qu'en fonction du modèle retenu, eh bien, on adapte. Alors. Est-ce que ça sera adopté? J'avoue que je ne connais pas beaucoup. Est-ce que vous connaissez dans l'entourage des gens qui roulent en gilet airbag?
Oui.
Oui,
non. Oui, à la FDM, on a plusieurs clients qui
jamais
systématiquement roulent comme ça.
Ok. Donc voilà. Et puis la rubrique consommotard, bah, y a toujours des essais de casques, de pneus, d'éclairage que vous retrouverez dans le magazine.
Tout ça à retrouver sur le Motomag du mois d'avril.
D'avril.
Et ça coûte combien?
Ça coûte
5 euros quelque chose.
5 euros 50.
5 euros.
5 euros, pardon.
Voilà.
Et soutenez
les Belges. Les Belges. 5 euros 50 pour les Belges.
Voilà. Et soutenez la presse, c'est important.
Mais allez, et soutenez la presse, oui, bien sûr. Oui.
Et l'abonnement à Motomag, je viens de le payer, c'est 35 euros par la mutuelle des motards.
Voilà.
Sinon, je crois que c'est même 30 euros si vous n'avez que l'application. Mais c'est quand même sympa d'avoir le papier. Hein.
C'est quand même mieux qu'un écran. Ouais. Je pense que je préfère le papier. Et on passe à un morceau de musique et puis on se retrouve avec Jean-Yves pour les infos de la FIDE. Des dates
à graver dans le marbre.
À graver parce que pour le mois d'avril, hein, attention. Hein. Voilà, à tout de suite.
Alors, les infos de la Fédération française des motards en colère avec Jean-Yves.
Oui.
Pour le mois d'avril. Hein.
Oui, là encore, il y a une tartine.
Deux grands rendez-vous.
Il y a deux grands rendez-vous parce que, justement, le contrôle technique, est, comme le monstre du Loch Ness qui revient périodiquement, c'est un marronnier quasiment. Cette fois-ci, il ressort, pour une fois que ce n'est pas le gouvernement français qui nous emmerde, c'est le Parlement européen. C'est-à-dire qu'il y a eu une étude espagnole sur l'accidentalité ou l'autologie, j'en sais rien, des 50 cm cubes, qui ont montré qu'en Espagne, il y a une véritable hécatombe à cause des 50 cm cubes, les jeunes conducteurs, etc. Et le lobby des contrôleurs techniques s'est jeté sur le rapport et il l'a diffusé au Parlement européen, et sans prévenir que c'était limité aux 50 cm cubes, et il a extrapolé les résultats de cette étude à tous les motards, à toutes les cylindrées et à toute l'Europe. Et donc, cette espèce de salopard de Décra, là, alors je vous rappelle le slogan, Décra, Décrapule, hein, faut pas l'oublier. Il y a même une petite chanson que je peux vous sortir. Décra, décracra, décra, décrapule. Si tu vas chez Décra, tu vas chez les crapules, pul, pul, pul. Décra, décracra. Bon, enfin bref, il y a
la prochaine
très bien.
La musique,
très bien.
Pas mal. J'ai pas la musique, mais donc pour ne pas casser les oreilles.
Jean-Yves, tout ce qui se mène en, tout ce qui se termine en hule fait mal.
Bah justement, il y a un couplet là-dessus.
J'imagine
qui finit par. Qui commence par an et qui finit par hule. C'est pour dire que par le Parlement européen, ça nous revient sur le dos. Et donc, c'était. Alors. Normalement, c'était un vieux truc.
C'est pas que ça, hein, parce que ça date de 2014. Hein, le contrôle technique des deux et trois roues motorisées devient une directive européenne.
Européenne.
Et devait devenir effectif en 2022. Et on est en 2022.
Voilà. Mais par contre, la directive prévoyait de pouvoir déroger à cette directive.
Et plusieurs pays l'ont fait.
Et plusieurs pays l'ont fait, à condition d'améliorer la sécurité routière et montrer que l'accidentologie avait baissé dans le pays.
Donc l'Irlande et la Finlande l'ont fait, et Pays-Bas aussi.
Voilà. Alors que le Danemark, l'Allemagne, la Suisse, eux, ils ont le contrôle technique parce que. Mais j'ai des copains enquêteurs allemands et suisses. Je vais vous dire comment ils passent le contrôle technique. Les doigts dans le nez. Ils ont des motos hyper trafiquées. 15 jours avant de passer au TÜV, donc pour les Allemands.
Ah oui, c'est le TÜV.
Ils remettent les pièces d'origine.
Il faut tout redémonter, il faut tout remonter, redémonter après, par la suite.
C'est pas compliqué. Enfin,
et c'est tous les combien, le contrôle technique, c'est tous les combien.
Tous les ans.
Tous les ans.
Oui, et en Suisse également.
Alors,
moralité, ils remettent leur moto d'origine, ils passent le contrôle technique les doigts dans le nez, ils reviennent, ils remettent leur bécane dans l'illégalité. Donc, l'efficacité du contrôle technique pour sauver des vies, parce que théoriquement, c'est ce que nous vend Décra, les crapules, donc c'est pour sauver des vies. En fait, il y a eu un rapport MED qui a fait état de... En fait, il n'y a que 0,3% des accidents qui sont moto, qui sont causés par l'état du véhicule. Donc c'est vraiment peanuts, parce que déjà, il y a une minorité de motards qui se déplacent par rapport à la majorité bagnole. Alors c'est vrai qu'en bagnole, le contrôle technique a été un peu justifié, il fut un temps, parce qu'en France, on avait des poubelles roulantes. Je ne sais pas si vous souvenez des 4L ou des 2 chevaux.
Pour les voitures.
Où on pouvait freiner avec les pieds. En passant à travers le plancher, donc ça a éliminé quand même pas mal de poubelles, mais de toute façon, nous, le contrôle technique, motard, nous, on le paye avec notre peau. Hein, si on a une bécane qui n'a pas de frein ou qui a des amortisseurs nazes, c'est nous qui irons au tapis et c'est nous qui ferons de la pizza en frottant sur le macadam. Donc, ce contrôle technique, il n'a strictement aucun intérêt au point de vue sécurité des motards. Et donc, c'est pour ça que la FFMC, alors là, je viens justement les éléments qui y vont arriver, c'est qu'il y a une manif organisée le 10 et 11 avril. Alors, il y aura d'abord une manif à Bruxelles. Bon, je crois que la FFMC 59 ne va pas s'y impliquer, mais par contre, sur l'île, la FFMC 59 a eu l'autorisation du préfet et le coordinateur a même demandé une extension de déplacement parce qu'en France, on a encore le droit de venir manifester, à une extension du périmètre à 40 km au lieu de 30, justement pour pouvoir accueillir la FFMC 62 qui, elle, a un préfet qui a refusé la manif. Et donc, on risque un transfert de la 62 avec la 69 parce que eux, ils sont interdits de manifester. Alors, il y a une autre option aussi, c'est que la Fédération des bikers de France, elle, avait prévu d'organiser une manif toujours contre le contrôle technique le 24 avril. Et donc, soit le 62, ça dépendra des événements Covid et autres, soit la 62 rejoint la FBF le 24 avril, soit le 10 avril, elle vient manifester avec la 59.
Bon, toutes ces infos là, Jean-Yves, on peut les avoir où? Parce que c'est pas très clair quand même. Hein.
C'est sur le site.
En plus, est-ce que tu as le droit de te déplacer s'il y a plus de 10 km ou 30 km
le problème,
de la manif? C'est pas clair. Est-ce que les motards vont venir? Ils vont avoir
s'il fait beau, les motards viendront.
Mais il fait beau, il y a cette histoire de Covid. On a plus le droit. Je pense que ça
on a le droit de manifester en France.
Oui, tout à fait.
Donc, il y a une dérogation.
Sur les manifestations.
En bord de l'île, tu dis je vais manifester, tu te fais arrêter par les flics, tu dis je vais manifester.
Voilà, exactement.
Ils vont croire.
Ils vont te croire.
Ah oui, d'accord.
Par contre, si t'es tout seul, non.
Si tu fais
une attestation.
Il faut bien que tu te rendes à la manif, tout seul. Voilà. Un problème.
Tu fais ton attestation pour aller à un motif vital qui est défendre son droit de vivre et de se déplacer.
Il faut avoir le tract.
Alors, le tract, il y a un tract qui est sorti, donc c'est le
10 avril.
Le 10 avril, c'est 13h15 à l'esplanade.
C'est 13h15 à l'esplanade de Lille.
Oui.
Et on finirait sur ce clin.
D'accord. Donc 13h15, le 10 avril, esplanade.
Esplanade de Lille.
Bon, voilà. Ça, c'est pour la première manif. Et il y en a une deuxième qui est en route le 24.
Le 24.
Donc, on rappelle que c'est la FEDE, la Fédération française des motards, plus la FBF, qui s'allie ensemble contre ce contrôle technique.
Contre le contrôle technique, voilà. Contre le diktat européen.
Donc, si on veut des infos, on peut aller sur le site de la Fédé 59.
C'est exactement, ou de la 62, d'ailleurs. Ouais.
Par contre, et honnêtement, ça fait des plombes qu'on alerte tout le monde sur ce contrôle technique. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est que je suis étonné de la cécité, je dis bien cécité intellectuelle, de tous les importateurs et concessionnaires moto.
Oui, ils ne disent rien, c'est vrai.
Je vais aller beaucoup plus loin que ça.
Non, c'est pas la cécité, c'est la compromission. Par contre, ils vont vendre du contrôle technique et ils vont faire renouveler leur gamme plus souvent. Oui.
Donc, moi, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Je dis bien cécité intellectuelle. Ce serait bien quand même que tout le monde, ces concessionnaires importateurs, soient avec nous dans la manif. Et tu veux que je te dise, je parie mon billet, une caisse de chambre, ce que vous voulez, il n'y en aura aucun.
Bien sûr.
Ça, c'est garanti. Très
bien, Jean-Yves. Donc c'est bon pour le contrôle technique et les rendez-vous du mois d'avril pour manifester contre ce contrôle.
Tu peux rappeler quand même encore une fois clairement le site où on peut voir toutes les infos.
Alors, toutes les infos justement sur le contrôle technique. Je vous demande ardemment de signer la pétition contre le contrôle technique. Alors c'est sur change.org et le nom de l'intitulé c'est non-o-contrôle-technique-moto. Hein. Vous écrivez tout ça avec des tirets entre chaque mot.
Sans accent.
Sans accent. Et donc, vous pouvez signer la pétition. Alors, moi, j'y étais voir. Je l'avais signé il y a déjà une ou deux semaines. Hier, on était à 3300 signataires. Déjà, rien que dans le département du Nord, on devrait pouvoir faire tout ça. Mais le problème, c'est que maintenant, on est dans un monde de lobby Et si le lobby motard ne s'exprime pas, eh ben, vous êtes condamnés à disparaître, chers amis motards.
Voilà, on passe un morceau de musique et après on retrouve les dépressifs du Custom Village.
Non, les compressifs.
En deux mots.
Voilà, ça s'entend qu'on a rendez-vous avec la Custom Culture.
Ah bah écoute, ça c'est de la moto, c'est de la moto d'homme.
Oh, tout de suite.
Ah bah ouais, voilà, écoute.
Bon, alors Daniel.
Oui.
Les bikers, qui sommes-nous en 2021? Justement, qui êtes-vous? Vous, les bikers.
Combien reste-t-il de bikers?
Voilà, mais ça c'est une vraie question. À l'époque, on parle de revival, de vintage, de... Puisque Christophe a aussi un petit peu introduit le sujet. C'est une bonne question, parce que l'image, je dirais, d'Épinal du biker, c'est un gros barbu, tatoué jusque...
Ah, c'est plus comme ça maintenant.
Non, mais ça l'est, mais je veux dire qu'on a une espèce de cliché qui est suralé.
Ça l'est, mais il est dentiste.
Vous êtes devenu des motards finalement, comme tout le monde.
Mais un biker, c'est avant tout un motard, un passionné par la moto. Oui. Ça, c'est, je dirais, c'est un truisme. Mais... Le biker a évolué quand même, on n'est plus dans les années 50 avec l'après la chevauchée sauvage et compagnie, mais ça reste un rebelle. Un rebelle pourquoi? Parce que c'est-à-dire que d'une manière générale, il est dans le rejet des notions conventionnelles que la société veut leur imposer, Et surtout, on est en révolte contre les aberrations politiques et économiques. On en vient d'en parler parce que nos collègues motards qui roulent avec des Guzzi, des Triumphs, etc., ont le même problème à un moment donné. C'est-à-dire qu'on veut nous imposer des diktats, dont Cézou. Donc c'était franco-français, maintenant c'est européen, et on ne sait trop quoi. Donc c'est un petit peu à la star du Covid, tout le monde dit tout et n'importe quoi, mais il n'y a pas de résistance. Sauf, nous, on est en résistance contre la connerie.
Ah, ouais. Et là c'est épuisant.
Non, mais je crois que c'est comme...
Il y a beaucoup de conneries, alors...
Ah, voilà, mais c'est comme...
Résiste.
Non, mais il faut résister.
C'est le tonneau des...
Il résiste en sa vie.
Mais oui, mais honnêtement, être motard, encore une fois, quelle que soit la moto, etc., c'est une lutte de tous les instants. Honnêtement.
Ah oui, oui, non, mais
c'est épuisant.
Il n'y a pas de limite.
Contre les conditions, contre l'environnement social, contre tout.
On a l'impression qu'on est devenu une cible à abattre. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire importantes qui sont complètement occultées. Par contre, nous, on est une minorité, puisqu'en gros, on est 5 millions de pratiquants en France. On est complètement maîtrisé par les systèmes, quels qu'ils soient. C'est ahurissant. Mais 5 millions de pratiquants, si les mecs étaient intelligents, je dis le motard en général, ils représentent à peu près 10 à 11 millions de votants. C'est-à-dire cette capacité à faire basculer tout système politique.
Alors Daniel, effectivement, hein, puisque tu dis qu'il faut résister, regarde, je reviens deux mots sur le contrôle. Je voulais en parler, mais j'ai oublié. Hein. Entre la vignette d'assurance, la vignette critère et peut-être celle du contrôle technique, où est-ce que vous allez les coller, vous, les vignettes?
Alors, il n'y aura
pas assez de place.
Sur le casque.
Sur le casque.
Et n'oublie pas, les mecs qui voulaient mettre une plaque d'immatriculation à l'avant.
À l'avant.
Ah oui, à l'avant de la moto en plus.
Voilà, oui. Non, mais effectivement, si tu veux, nous, on veut... la réalité actuelle du biker n'est plus celle de la route sauvage, on en a dit tout à l'heure, comme dans les années 50, ça c'est clair.
C'est plus Easy Rider.
Non, pas vraiment, non, non. Par contre... Il y a toujours, honnêtement, ce qui est patent, ce qui est constant, c'est ce côté un petit peu rebelle contre les lois qu'on nous assène, qui ne correspondent pas à rien. Je n'ai jamais vu, sauf une fois, un homme politique d'importance nationale s'associer à nous dans nos combats. Le seul qui l'ait fait, et il est venu à la radio, c'était le député Lazzaro, qui s'est mouillé, en toute honnêteté, nous a dit... je suis ce que je suis, mais je comprends ce que vous faites et c'est une connerie sans nom. Rappelle-toi, il est venu à la radio.
Mais oui, je me souviens.
Hein, donc c'est le seul qui s'est mouillé quand même. Bon, ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher.
Tu comprends pourquoi il ne se mouille pas beaucoup, les hommes politiques?
Oui.
Parce que ça leur coûte trop cher après.
Mais oui, mais bon, c'est un mec de conviction et qui a osé venir nous voir et qui a dit, bon, écoutez, je vous écoute et je comprends votre combat. Donc ça, c'est important. Donc, tu voulais savoir notre style de vie, je te dis, c'est de cette manière générale de... Je te dis, encore une fois, d'être révolté contre la bêtise humaine. Et voilà, c'est ce qui est constant. Alors, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle un socio-style, ou des socio-styles un peu particuliers. On roule avec des machines de plutôt de grosses cylindrées, avec des positions de conduite un peu cool, ce qu'on appelle les pieds en avant. Donc, et surtout, nos machines sont faites pour cruiser tranquillement. C'est-à-dire qu'on a rarement des excès de vitesse avec nos machines.
Bien vous roulez à 80, en fait.
Oh, quand on peut, des fois même moins.
Non, oui, mais justement, à 80, ils en profitent aussi de leur bécane.
Mais c'est fait pour.
En fait, vous profitez de la vie, en fait, tout bonnement.
Mais tout simplement, nous, on est entre potes, entre frères. Le brotherhood, voilà. Comme ça existe, c'est une réalité. Alors... Je sais qu'il y a des vieux combats qui disent « Oui, mais les bikers saluent pas les autres et tout. »
Ah oui, c'est vrai.
Mon cul. Quand on...
je vais essayer la prochaine fois.
C'est vrai, moi j'ai remarqué qu'il y a des mecs qui des marques américaines qui saluent pas.
Ouais,
les mecs qui sont avec des motos Guzzi, par exemple, tu vois.
Voilà. Non, mais très honnêtement, c'est les terrifiants de café. C'est pas ces gens-là qui roulent. Je peux t'assurer, c'est ceux qui ont l'autorisation par bonbonne ou par je ne sais trop qui de rouler de 15 à 17 heures.
Ah oui, tu vois, c'est comme ça.
Le samedi,
en fait, finalement, ils sont privés de liberté, ces gens-là, en fait.
Une anecdote. Hier,
ils en profitent, là.
Oui. J'ai été conduire ma femme se faire piquer pour le Covid.
Et ben, tu m'as fait peur.
Oh mon Dieu.
Alors là, j'ai envie que tu m'as fait peur.
Aussi.
Parce que je vous dis, tu t'as fait piquer ta femme. Je savais pas si tu étais autorisé en France.
Il y a un infirmier qui m'a dit « Ah, vous êtes motard, moi j'aurais bien aimé, mais mon père, il a pas voulu et ma femme non plus. »
Voilà. Oh ben, écoute,
il n'a pas résisté.
Résiste.
Voilà. Pour que tu existes.
Pour que tu existes.
Donc,
oui.
Je répète, encore une fois, tu as une... effectivement, le Mille Biker, à un moment donné, c'était devenu très à la mode avec, quelque part, les...
Oui, c'est fun, hein.
Les Rab Rich and Bikers, ouais, c'est-à-dire ouais. Les gens qui avaient du pognon et qui achetaient des grosses motos, oui. Ça c'est clair. Oui. Mais les gens qui roulent sont comme toi et moi, ils ont une passion, peut-être la American Way, enfin la vie un peu américaine, enfin voilà, avec véhicules,
ah oui,
par toutes sortes d'images.
Ah oui, l'Amérique, c'est ça, oui, ça, bah, c'est l'image,
la liberté,
l'image de l'Amérique. Oui.
Liberté et rebelle.
Oui.
Et pourtant, quand on est aux États-Unis, je peux vous assurer que c'est autre chose. Mais bon, parce qu'à remonter de fil aux États-Unis, vous faites
voler,
ça coûte cher.
Oui.
Ça, je peux vous l'assurer. Ah. Donc, honnêtement, c'est une vraie culture, une contre-culture, mais qui est aussi basée, encore une fois, sur une forme de fraternité certaine. On n'est pas des voyous, on n'est pas des gangsters. Chacun a un mode de vie, un travail, une famille, une passion. Mais cette passion, on entend la véhiculer par notre comportement. On veut un comportement le plus exemplaire possible, ça c'est clair, mais on ne veut pas être emmerdé.
Très bien, les rassemblements.
Ah, les rassemblements. Bah écoute.
Entre vous alors.
Entre nous.
Entre possesseurs d'américaines.
Non.
Non,
c'est vrai qu'en gros, à 80%, bien évidemment.
Ou de chopper.
Voilà, chopper ou custom.
Ou custom.
Je répète, custom, c'est quelqu'un qui est capable de dépouiller sa moto ou de l'accessoiriser comme il en a envie. C'est la fond. Mais encore une fois, tu parlais de Guzzi, tu l'as fait toi. T'es un grand spécialiste avec tes skis, tes trucs, tes machins, sur ta roquette. Toi, tu bidouilles aussi tes motos.
T'as skié en Guzzi?
Non. Bah, la Guzzi, c'est trop léger pour mettre des skis. Avec la roquette,
alors,
c'est
rentable. Tu piques ta femme, tu skis en Guzzi. C'est vraiment un type assez exceptionnel.
Un ovni. Non, mais... Alors, les rassemblements, pourquoi ? C'est le seul endroit où on peut se retrouver les uns les autres, échanger un petit peu sur notre culture, sur notre passion, sur tout le matériel. Il y en a de moins en moins, parce que ben, avec le Covid, c'est pas facile. Mais il reste l'entrepote, le truc à l'ancienne.
L'entrepote, ah oui, en septembre.
Mais oui, et tout le monde... Et honnêtement, t'as 80% de custom, mais t'as des gens qui viennent en hypersport, t'as de tout. Et c'est surtout la bonne ambiance, la passion... Et c'est le seul moyen de se rencontrer au moins une fois par an.
Ça, c'est du teasing.
Tout à fait.
La notion de respect, Daniel.
Bah, écoute, c'est simple. Il y a un principe. Chez nous, quand tu dis, tu fais. Tu n'as aucune obligation. Mais si tu dis, tu fais.
Ah, voilà. C'est obligatoire. C'est tout.
Bah oui. Bah voilà. Parce
pour
que moi...
terminer, Daniel,
oui.
L'évolution de notre image, enfin, de votre image, hein. À travers les générations.
Bah écoute,
pour terminer, hein.
Encore une fois, on n'est plus des gens, inculturés, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est ce néologisme affreux. Nous sommes des gens avec une culture. On entend prévaloir cette culture qui nous a été donnée par nos parents, grands-parents, et puis transmettre ce qui est la passion de la route, encore une fois, quelle que soit la moto. Et surtout la passion de l'amitié, de la fraternité. On peut se retrouver, quel que soit le coin du monde, à un motard. Et si un jour, on voit un motard qui a des ennuis, qui est dans la peine, la première chose qu'on va faire, c'est se mettre sur le côté et l'aider.
Ah oui.
Voilà.
T'es sûr de ça ?
Oui.
Si.
Oui.
Certain, franchement,
oui.
Moi, je peux te dire qu'il fréquente les rassemblements internationaux.
Ouais.
Bon, la camaraderie qu'on peut avoir entre motards français... On l'a aussi bien avec les motards anglais, allemands... Ou
américains.
Et les Rocket Club anglais vont souvent en Allemagne, alors qu'ils ont un passif...
Et une petite chose, on a aussi dans le milieu biker des gens, des MC qui sont des terrifiants, des gens dangereux, etc. Moi, je peux te dire qu'aux États-Unis, il y a 4 ans, on était du côté de Las Vegas, on se baladait en moto, avec nos petits gilets et tout. On est à un diner, enfin sur le long de la route. Et on voit des types avec des couleurs, des trucs, puis des blasons un peu particuliers. Ils nous voient, ils s'arrêtent. Donc on discute, etc. Venez-nous, on vient de France et tout. Et le type, tu vois, mais vraiment des monstres. Et il va ouvrir sa caisse, ses sacoches. Et il avait des mignonnettes de gnolles. Et on a fait la fête, on a fraternisé avec des gens, je vous jure. Vous auriez eu tous peur de les voir, et des gens, mais adorables, voilà. Et ils étaient étonnés qu'on vienne en moto rouler chez eux, parce qu'ils nous ont dit, ben on roule pas trop non plus, et voilà. c'est ça aussi, cette notion de fraternité vraiment importante.
Très bien, merci Daniel. On
merci
passe à un tout dernier morceau de musique parce qu'il y a notre ami Christophe qui voulait parler.
J'ai une annonce à faire.
Tu avais une annonce à faire.
Ouais.
Allez, juste après le dernier morceau de musique.
Voilà.
On termine cette émission avec les nids de poules, Christophe.
Oui, bah, à Noël, on a les boules, et puis oui. À Pâques, on a les œufs.
Ah, hein, oui,
donc,
mais ça rime pas.
Effectivement,
non. Voilà,
non, non, mais je trouvais que ça faisait bien pour lancer le sujet. Et donc,
avec des trous à s'amender.
Chaque mois, vous oui. avez... D'ailleurs, vous pouvez le signaler. Alors, il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez signaler à Moto Magazine toutes les anomalies que vous trouvez sur la route, les trucs bizarres, les glissières, les infrastructures effectivement dangereuses, etc. Moto Magazine décerne un bonnet d'âne. Et donc ce mois d'avril, dans le magazine, c'est Saint-Mandé qui collectionne le bonnet d'âne avec ses nids de poules. Alors... C'est l'opération nid de poule.
Justement, pour
Jean-Yves, pas. Chaque année, enfin, c'est pas toute l'année, c'est pas ouais, chaque c'est... année,
non,
c'est toute l'année.
En permanence.
Vous pouvez aider effectivement la FFMC dans son opération nid de poule en allant signaler sur le site nid de poule au singulier, tout en attaché sans point, niddepoule.fr, les anomalies de infrastructures, les routes dégradées. Vous créez un widget. Et
On fera ça.
Fallait l'introduire.
Voilà.
Et donc, je vous rappelle qu'on est à Pâques, hein, quand même. Donc si on parle de Nipoule.
Voilà. Et donc, vous signalez ces anomalies d'infrastructure pour pouvoir référencer
la
tous les
avait
dangers
de
la route. Alors, c'est valable. Ici, bon, on est sur une émission pour les motards. J'espère qu'il y a des cyclistes, des automobilistes.
Ah oui, aussi, oui.
Enfin, des piétons.
Des piétons. Enfin, les piétons, ils ne marchent pas sur la chaussée. Mais
bah, ça dépend.
Ça dépend, oui. Bon. Ceci dit, oui, c'est vrai que si tu traverses la route...
Quand il y a des trottinettes sur les trottoirs, c'est le piéton.
Les trottinettes, je les avais oubliées, les monoroues. Enfin bon, on va s'arrêter là. Hein. Donc, vous pouvez signaler ça sur Nipool. Et puis, bah, c'est la période de Grand Prix, la miche en ce moment, avec le Grand Prix du Qatar. Et donc, vous avez... Et c'est une nouvelle orientation. Il y avait déjà des sujets sur le sport moto. Mais là, vous avez des portraits, des interviews, les forces en présence, évidemment, les gens à suivre, hein, Joan Mir, Marc Marquez.
On voit que Motomag a changé de rédacteur en chef.
Absolument. Bon, enfin, ceci dit, c'est une patte. Hein, voilà. El Diablo, hein, Valentino Rossi, 26 présences en Grand Prix, 26 années de Grand Prix. Qu'est-ce qu'il va nous sortir
cette présentation de Lorenzo Felon.
Et voilà. Et donc,
le petit jeune de 16 ans qui débute en Moto 3.
16 ans.
Ouais. Ah bah oui, 16 ans.
C'est beau. Hein. C'est de la graine de champion.
Bah, il y a longtemps qu'on ne les a plus. Hein.
Voilà. Et Loris Baz, donc, qui va courir donc, en championnat américain de Superbike. Et donc, un portrait, question-réponse à découvrir à la fin du MAC d'avril.
Voilà, c'était le petit bonus qu'on avait oublié.
Pas du tout. C'est un vrai teasing.
Ouais. Ah ouais, c'est un teasing. Exactement, c'est ça le teasing. Alors, j'ai compris maintenant. Voilà, très bien.
5 euros dans
oui,
le bon
5 euros. Ouais, 5 balles.
Ça, c'est pas du teasing, hein. c'est de la vente, ça.
Bon, merci.
Mais il faut soutenir la presse. C'est Dan qui l'a dit. Hein.
Voilà,
pas moi.
Merci Christophe.
Mais il faut se battre pour ça.
L'émission se termine. Merci, merci Christophe. Merci Dan. Alors, ça va finalement. C'est une conversation qui t'a un peu remis un peu d'espoir.
Mais quand on vient ici,
ça t'a reboosté un peu. Bah voilà, t'étais triste en arrivant.
Voilà, on est plein d'énergie
positive. Tes problèmes, voilà. C'est bien finalement. C'est thérapeutique.
Voilà, la radio thérapeutique.
Jean-Yves, ta femme, elle est piquée, mais ça va.
Bah oui, maintenant elle a eu sa deuxième injection. Donc.
Il l'a récupéré.
Non, le problème, c'est qu'elle peut le contaminer.
Ah oui, ah oui, bon, bah très bien. Alors, voilà, écoute, on verra bien.
Bah, pique-là.
C'est un problème. Non, faut, rendez-vous, donc, on rappelle, hein, pour la manif, le 10 avril, 13h15, Esplanade. Hein. Et puis, vous allez sur le site hein, de la Fédé FFMC Nord. Vous allez, de toute façon, au 59. Et je vous rappelle que la programmation musicale était signée Monsieur Laurent Rodier.
Yeah.
Merci, Laurent. Yeah. Au revoir.